Souvent, très souvent, l'on entend parler de fact-checking. Ce mot est de plus en plus utilisé au moment où foisonnent sur les différents réseaux sociaux une multitude d'informations écrites, audio et vidéo émanant de divers horizons, notamment de la population, de la presse et autres influenceurs, et parfois émanant du plus haut niveau. Dès que ces informations partent, c'est fini. On ne peut plus les rattraper. Aujourd'hui, force est de constater que nous vivons dans un monde, un environnement assailli par les fake news. Alors, comment distinguer la vraie information de la fausse? Quels sont les sujets en lien avec la désinformation en Côte d'Ivoire? Quelle est la situation réelle, surtout dans un contexte préélectoral? Quelle différence existe-t-il entre la malinformation, la mésinformation et la désinformation? Existe-t-il un lien entre les fake news et la rumeur? Fact-checking et intelligence artificielle font-ils bon ménage? Autant de questions qui trouveront des pistes de solutions avec un journaliste fact-checker à l'AFP. Il est également formateur média indépendant. Bienvenue à tous.
Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
Je suis Kaofi, bonjour.
Bonjour Matt.
Qu'est-ce que le fact-checking? À quoi et à qui pense-t-on lorsqu'on entend ce mot?
Alors, le fact-checking, c'est simplement la vérification de l'information. Alors, beaucoup de personnes vont se poser la question, pourquoi les journalistes parlent autant de vérification de l'information aujourd'hui? C'est parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes assaillis par une vague de fausses informations, notamment facilitée par l'avènement des réseaux sociaux et surtout le développement des nouveaux médias. Alors, quand on parle de fact-checking, il faut automatiquement penser aux journalistes professionnels qui sait que il existe différentes étapes dans la production de l'information. Donc, pour que l'information puisse atteindre le citoyen, il faut que cette information soit collectée, soit traitée, soit vérifiée, soit validée par soit un rédacteur en chef ou un directeur de publication et peut aller maintenant au consommateur. Malheureusement, ces étapes de la vérification de l'information ont tendance à être oubliées justement parce que nous sommes également non seulement assaillis par des fausses informations, mais nous sommes également assaillis par de nouveaux faiseurs d'informations qui ne sont pas forcément des professionnels.
Alors pourquoi le fact-checking est-il important dans le journalisme?
Le fact-checking est important dans le journalisme justement, premièrement, pour faire la différence entre le journaliste professionnel et celui qui ne l'est pas. Donc, la vérification d'informations est la base première de notre métier et ce qui fait qu'aujourd'hui, toute personne qui se dit journaliste doit embrasser donc la production d'une information qui est vraie, qui est sourcée. Le fact-checking fait la différence entre le journaliste professionnel qui vérifie son information et monsieur tout le monde qui se dit aujourd'hui faiseur d'informations parce que ayant la possibilité ou le pouvoir d'avoir un téléphone portable et une connexion internet. Donc, le fact-checking, pour moi, est un retour à l'essence du journalisme professionnel et une manière d'apporter une meilleure information aux citoyens.
Sur Kaofi, le fact-checking est-il un genre journalistique?
Alors, si on part de la définition du mot genre journalistique au sens science de la communication, oui, parce qu'il y a une démarche scientifique qui est inscrite dans le reportage en tant que genre, une démarche scientifique qui est inscrite dans l'investigation en tant que genre. Aujourd'hui, on remarque que le fact-checking répond à toute cette démarche scientifique-là en tant que genre journalistique nouveau. Alors, beaucoup parlent de tendance, de genre journalistique, mais je pense que aujourd'hui, il y a quelque chose dont je suis convaincu. C'est que la vérification d'informations, le fact-checking ne sera pas un mouvement éphémère comme on l'a connu, par exemple, avec les associations de journalistes spécialisés dans tel ou tel domaine. Non. Aussi longtemps que les hommes politiques, que monsieur tout le monde, que les scientifiques seront dans une logique de travestir l'information, permettez-moi cette expression, pour ne pas utiliser le mot mentir au peuple, il y aura des hommes et des femmes de médias face à eux pour pouvoir restaurer cette vérité-là. Donc aujourd'hui, c'est une tendance qui appelle beaucoup de capitaux. On voit beaucoup d'entreprises, même des nouveaux médias, qui investissent de l'argent dans le fact-checking. C'est pour vous dire que le fact-checking n'est pas prêt de s'arrêter aussi longtemps qu'il y aura des journalistes professionnels capables et censés faire un travail de façon professionnelle de sorte à apporter une information crédible aux citoyens.
À côté de l'information crédible, il y a la désinformation. Quelles sont les raisons qui poussent les populations à la désinformation?
Aujourd'hui, il y a deux types de désinformation. Il y a une désinformation qui est intentionnelle et il y a une désinformation, je dirais, qui est de nature non intentionnelle. Parce que beaucoup de personnes partagent de l'information sur les réseaux sociaux sans jamais savoir si cette information est vraie ou elle est fausse. Premièrement, il y a le lot de personnes qui le font de façon intentionnelle. Alors, dans ce lot de personnes qui le font de façon intentionnelle, nous avons par exemple des hommes politiques qui manipulent l'information. Nous avons des personnes qui, par exemple, pour des intérêts économiques, sont chez eux et produisent ces fausses informations. Et il y a des personnes aujourd'hui pour des questions de visibilité. Nous sommes à l'ère du buzz. Nous sommes à l'heure de l'utilisation tous azimuts des réseaux sociaux pour se faire de la visibilité. Comme c'est devenu le slogan en Côte d'Ivoire, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et tout le monde suit, tout le monde partage ces informations-là. Et beaucoup de personnes ont ces stratégies-là pour se donner de la visibilité. Donc, en quelque sorte, on ment sur les réseaux sociaux pour exister, ce qui est dangereux. Donc, on peut prendre une photo décontextualisée, c'est-à-dire une photo, par exemple, d'un pont qui a été photographié au Kenya et on dit que cette photo-là a été photographiée en Côte d'Ivoire. Donc, une photo, une vidéo décontextualisée, on l'utilise simplement pour s'attirer des commentaires, pour s'attirer des likes. De l'autre côté, on a une deuxième catégorie de citoyens qui, eux, n'ont rien à voir avec la politique, n'ont pas de raison, je veux dire, apparente de partager cette fausse information, mais comme ils ne le savent pas, comme ils n'ont pas la bonne éducation aux médias, ils se disent toutes les informations qui sont sur les réseaux sociaux sont de bonnes informations. Et vous allez voir que si vous faites attention aux personnes qui commentent et qui partagent sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre elles n'ont pas une vie numérique poussée. C'est des gens qui ont un petit pass, qui viennent sur les réseaux sociaux pour ne pas que son compte soit fermé. Il partage tout ce qu'il voit en une journée et puis pour lui, c'est bon. Mais justement, c'est ces personnes avec lesquelles on doit aller porter l'information de la bonne éducation citoyenne de telle sorte qu'ils ne soient plus amenés à partager des informations qui ne sont pas correctes, mais qu'elles ne savent malheureusement pas.
Est-ce que ce sont les facteurs qui favorisent les fake news selon vous?
Oui. Il y a le facteur économique. Des personnes ont besoin de se faire de la visibilité pour vendre des produits. Donc, quitte à faire de leur page des espaces où on partage de mauvaises informations pour attirer du monde, ils sont prêts à le faire. Il y a certaines personnes qui se disent analystes politiques. On voit aujourd'hui beaucoup de pages foisonnées avec des animateurs qui n'ont souvent même pas la connaissance des sujets qu'ils abordent, mais pour se faire de la visibilité, placer des produits ou vendre leurs compétences ou se faire attirer tout simplement par des réseaux. Plus important, ces personnes-là sont prêtes à vendre de la désinformation. Donc, aujourd'hui, que ce soit en politique, que ce soit dans le monde économique, que ce soit également au niveau du citoyen lambda qui veut se donner de la visibilité ou de l'importance, il y a tous ces facteurs-là qui poussent certaines personnes à être de véritables industries de la désinformation.
Alors, comment le fact-checking peut-il, dans ces conditions, aider à atténuer ce problème?
Le fact-checking est la réponse tout trouvée à la question de la désinformation. Aujourd'hui, si nous voulons aller loin, si nous voulons porter réellement la bonne information aux citoyens, j'estime pour ma part qu'il faut qu'il y ait un nombre de plus en plus important de journalistes professionnels qui soient formés au fact-checking, à la vérification de l'information. Et aujourd'hui, si nous avons beaucoup de journalistes qui sont formés au béaba du fact-checking, qui sont dans la logique du renforcement de capacité, il n'y a pas de raison que la désinformation puisse prospérer. J'estime qu'aujourd'hui, il y a plus de pages ou d'acteurs de la désinformation que de journalistes. Nous partons, je dirais pas à âme égale. Ils sont plus nombreux que nous. Il y a des États qui mettent de l'argent au service de la désinformation pour des raisons politiques. Et nous, journalistes, combien sommes-nous à l'échelle de la planète Terre? Aujourd'hui, le challenge est important. Par le passé, on disait, j'ai entendu l'information à la télé ou je l'ai entendu à la radio. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Je l'ai lu sur Facebook. Or, c'est dans cet univers-là où tout le monde partage l'information que les dangers se trouvent. Donc, nous sommes appelés, nous, journalistes professionnels, à embrasser le fact-checking, à l'exercer au quotidien pour réellement arriver à faire en sorte que nous puissions réellement donner la bonne information aux citoyens, une information qui est vérifiée et qui contredit justement, qui prend le contre-pied à la fausse information.
Vous procédez au fact-checking chaque jour, c'est votre univers. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques-unes de vos expériences en matière de fact-checking?
Je dois dire que le travail que nous faisons au quotidien, c'est un travail de veille. Parce que retrouver la fausse information dans un univers de liens aussi important, du milliard d'utilisateurs simplement sur Facebook, vous voyez que c'est un travail de petite fourmi. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, nous ne partons pas à âme égale avec ceux qui produisent la désinformation. Parce que nous prenons plus de temps pour déconstruire une fausse information qu'on ne prend de temps pour la construire. Le citoyen n'a pas envie de savoir si l'information est fausse ou elle est vraie. Le citoyen a l'obligation ou a le devoir de savoir pourquoi cette information est vraie. Voici pourquoi nous parlons de démarches scientifiques dans la pratique du fact-checking. Donc aller d'un point A à un point Z pour démontrer aux citoyens que cette information est fausse ou est trompeuse. Prenons le contexte ivoirien. Et tout récemment, j'ai fact-checké une vidéo qui a été enregistré en Indonésie et que quelqu'un a tenté de présenter comme la pose des rails du métro d'Abidjan, ce qui était totalement faux. Donc en utilisant des outils comme InVid, qui est un outil de vérification basé sur l'intelligence artificielle et qui permet de vérifier les vidéos, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait d'une vidéo décontextualisée. Donc une vidéo qui a été enregistrée en Indonésie et quelqu'un a fait passer pour les images de la réalisation du métro en Côte d'Ivoire. Donc c'est comme un travail classique de journalisme, mais à une différence près, c'est que nous utilisons des outils en ligne qui nous permettent de remonter à l'origine d'une vidéo ou d'une photo. Et ensuite, il y a également des pratiques du journalisme traditionnel, comme par exemple prendre un téléphone et appeler une personne. Dans le cadre précis de cette vidéo décontextualisée sur les prétendus travaux de la réalisation du métro d'Abidjan, nous avons été amenés à appeler les 3 entreprises qui s'occupent de la réalisation du métro, qui ont confirmé effectivement que cette image-là était décontextualisée. Bon, on le voit également dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons eu notre pont, le 4e qui relie donc la commune de Cocody au plateau. Je me suis retrouvé avec un fact-checker d'un pays d'Afrique anglophone et la personne nous avait sorti cette image en nous disant on nous dit que ce pont a été construit en Afrique du Sud. Je leur ai dit non, ça c'est le pont qui se trouve à Abidjan. Donc vous voyez que même des images de la Côte d'Ivoire sont utilisées dans d'autres pays pour servir la cause de la désinformation.
On parle aussi de rumeurs. Les rumeurs s'apparentent-elles aux fake news?
Alors, à quel moment la rumeur s'apparente-t-elle à de la désinformation ou à une fake news? C'est au moment précis où la rumeur est construite de façon intentionnelle. La plus grosse des rumeurs qu'on ait eues en Côte d'Ivoire, vous êtes journaliste et vous allez le confirmer avec moi, c'est le fameux décès du président Jacques Chirac. On est en pleine crise post-électorale, froid entre Abidjan et Paris. Donc, en ce moment précis, dans les maquis d'Abidjan, je me rappelle ce jour-là, la Côte d'Ivoire avait lourdement perdu face au Cameroun et les gens étaient découragés. Et à un moment donné, on a senti que la fête avait repris. Moi, j'étais en plein Yopougon et quelqu'un a crié « Jacques Chirac est décédé ». Alors, tout le monde y a cru jusqu'à ce que l'Élysée ne produise un communiqué informant que le président Chirac se portait bien. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, ce qui s'apparente à la rumeur, lorsqu'elle est partagée par des canaux, comme on a coutume de le dire, Radio Kwakpato, ou on a encore, comment on appelle ça, le bouche à oreille, qui sont des moyens puissants pour ventiler la rumeur et la désinformation. Lorsque tous ces canaux sont utilisés, alors cette rumeur-là devient aujourd'hui une fausse information, surtout que à l'heure des réseaux sociaux, la rumeur n'est plus du domaine du bouche à oreille. La rumeur se vend directement sur les réseaux sociaux et c'est dangereux.
C'est dangereux. Vous arrive-t-il de fact-checker plusieurs sujets en lien avec l'environnement et susceptibles de désinformation?
Aujourd'hui, la question liée à l'environnement prend beaucoup d'ampleur, que ce soit en Afrique et dans le reste du monde, parce que les questions aujourd'hui liées à la désinformation sur les questions environnementales prennent une nouvelle dimension, une nouvelle orientation. Ce sont des questions qui sont scientifiques et très techniques. Donc, monsieur, tout le monde ne peut pas les comprendre. Par exemple, sur la question du crédit carbone, sur la question de la pollution marine, il y a beaucoup de sujets ainsi que les citoyens ne maîtrisent pas d'abord. Premièrement, parce que le corpus des questions environnementales n'a pas été traduit dans nos langues locales. Comment on dit, par exemple, réchauffement climatique en Baoulé? On ne sait pas. Comment on dit crédit carbone en Djoula? Donc, c'est autant de notions qui, pour le citoyen même qui est instruit, sont encore abstraites, à plus forte raison pour la personne qui n'a pas un niveau d'études assez élevé. Aujourd'hui, tout le monde surfe sur la tendance de la désinformation liée à l'environnement pour pouvoir soit décourager les populations d'adopter des gestes sains pour pouvoir réellement lutter contre le réchauffement climatique. Donc, on continue d'avoir des comportements basiques, par exemple, après toutes ces années de sensibilisation, des citoyens qui polluent autour de lui, qui mangent, qui jettent et puis qui se disent « bon, la mairie va venir ramasser » ou bien « l'État va venir ramasser ». Mais l'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Donc, autant de désinformations sur les questions environnementales qui jouent contre les populations elles-mêmes. Parce que ceux qui vivent, premièrement, les questions de réchauffement climatique, ce ne sont pas nos décideurs, ce sont les populations elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est un travail supplémentaire que les journalistes qui sont dans le domaine de l'environnement doivent faire pour pouvoir réellement aider les populations à mieux comprendre les questions environnementales.
En Côte d'Ivoire, existe-t-il une législation en vigueur par rapport au fact-checking?
Je dis que ceux qui nous ont dévancés dans la profession ont été très sages. Beaucoup de personnes qui écoutent aujourd'hui les questions relatives au fact-checking, qui écoutent par les différents canaux, tout ce qui est formation en matière de vérification d'informations, même en ligne. Je dois dire que la loi, la législation en Côte d'Ivoire n'est pas muette sur les questions de désinformation. Nous avons la PLCC qui est une unité de la police qui lutte contre ce phénomène-là. Parce que beaucoup de personnes jouent encore à croire que la désinformation est inoffensive. Non, la désinformation tue. Annoncer par exemple un incendie dans un endroit d'Abidjan alors que cet incendie n'a pas lieu, c'est de la désinformation. Partager de telles informations sur les réseaux sociaux, pousser les sapeurs-pompiers à aller dans cette zone d'intervention alors que l'information est fausse, ça peut coûter la vie. Parce que pendant qu'une équipe de sauveteurs est en train d'être déployée sur cet endroit où il n'y a pas d'incendie, d'autres personnes attendent d'être secourues. Et ça peut ôter la vie à des gens. Donc la désinformation tue. Voici pourquoi en Côte d'Ivoire, nous avons des lois qui balisent non seulement le travail, l'exercice de la fonction même de journaliste, donc de celui qui est en charge du traitement professionnel de l'information, mais également de Monsieur Tous les Jours. Nous avons la loi qui existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui condamne le citoyen qui partage les fausses informations. Donc, il y a des peines privatives de liberté pour celui qui partage la fausse information. Il y a des peines privatives de liberté pour celui qui relaie la fausse information. Et il y a des sanctions pécuniaires. C'est pour vous dire que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas muet. Et au niveau même du journalisme, puisqu'aujourd'hui nous parlons beaucoup du journaliste qui doit adopter la question de la vérification de l'information, le code d'éthique et de déontologie nous interdit le plagiat et la diffusion de fausses informations. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ceux qui nous ont précédés dans la profession ont été très sages de nous doter d'un code d'éthique et de déontologie qui nous permet aujourd'hui en tant que journaliste d'embrasser le fact-checking et de définitivement tourner le dos à la désinformation. Alors on va se dire, dans un contexte où le journalisme ivoirien est marqué encore et toujours par les questions politiques, est-ce qu'on peut réellement se défaire de cette question de désinformation? Je pense que cela fait appel, comme le code d'éthique et de déontologie est un code qu'on s'approprie. Donc aujourd'hui, l'appel est également lancé à tous les journalistes professionnels d'être aussi regardants dans leur manière de traiter l'information, quand bien même quelqu'un serait amené à se justifier en disant « je travaille pour un journal politique ». Vous travaillez pour un journal politique, mais vous restez avant tout un homme de médias.
Sur Kaoufi, combien d'organisations de fact-checking existent-ils en Côte d'Ivoire? Et sur quelle base ces organisations vérifient-elles les informations?
Alors, nous avons plusieurs organisations de vérification d'informations en Côte d'Ivoire. Il y a certaines qui sont engagées en tant qu'association, en tant qu'organisation non gouvernementale. Certaines organisations sont engagées également en tant que médias. Donc, je prends un exemple simple. La Radio de la Paix peut décider d'avoir un fact-checker en son sein qui sera, par exemple, chargé de produire une capsule d'informations sur les questions de désinformation, traiter des sujets de désinformation ou recevoir des spécialistes dans le domaine. Donc, du moment où la Radio de la Paix a un fact-checker, on peut déjà considérer la Radio de la Paix comme étant une organisation qui fait du fact-checking. Quand bien même c'est pas cette personne-là qui sera désignée en tant que fact-checker au sein de la rédaction, aura également un travail important à faire, c'est également d'aider les autres journalistes de la rédaction à comprendre le fact-checking. Donc aujourd'hui, vous avez Radio Côte d'Ivoire, vous avez le Média Citoyen, Ebony Today, tous ces médias-là ont des fact-checkers en leur sein et se dédient au fact-checking. Vous avez une organisation comme le Réprelsi qui fait beaucoup de sensibilisation sur les questions de désinformation et de sensibilisation, notamment contre les discours de haine. Donc c'est autant d'entités qui travaillent sur les mêmes bases que tous les fact-checkers à travers le monde. Donc, c'est l'utilisation d'outils basés sur l'intelligence artificielle pour faire une recherche par image inversée, que ce soit la vidéo, que ce soit les photos. Donc, c'est les mêmes outils que nous partageons à travers le monde. Alors, sauf que certaines rédactions peuvent aller plus loin en matière de vérification d'informations en fonction de leurs moyens et surtout de leurs connexions. Par exemple, le service de vérification digitale de l'AFP, qui est aujourd'hui la plus grosse entité de vérification d'informations à travers le monde, parce que travaillant pratiquement sur 25 langues et dans plusieurs pays à travers le monde, c'est une organisation qui aujourd'hui a pignon sur rue parce que c'est plus de 1300 journalistes à travers le monde. Alors, beaucoup de médias n'ont pas peut-être plus de 1000 ou 2000 journalistes à consacrer au fact-checking, mais il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que toutes les organisations aujourd'hui qui sont engagées dans le domaine des médias et qui travaillent sur la vérification de l'information, nous les considérons comme des médias ou des entités qui travaillent pour la vérification de l'information avec les outils. Il va sans dire que nous travaillons également en réseau. Les journalistes échangent leurs informations, partagent les fausses informations de telle sorte que une fausse information qui a été, par exemple, identifiée au Nigeria ne puisse pas impacter des populations qui se trouvent au Burkina Faso ou au Mali. D'où l'importance de maintenir cet élan de solidarité dans le milieu du fact-checking au niveau du partage d'informations, mais également au niveau de la formation, et c'est important.
Au niveau de la vérification des informations, je suppose que vous êtes confronté à des défis. Lesquels ? Quels sont les défis auxquels les vérificateurs de faits sont confrontés lorsqu'ils examinent les informations en audio, vidéo ou en ligne?
Aujourd'hui, le défi le plus important, le premier, c'est que nous partons véritablement face à une armée. Il y a une poignée de journalistes qui sont censés faire non seulement la veille, détecter les fausses informations et les vérifier. Alors, il n'y a pas de temps précis pour dire qu'on déconstruit l'information en 3 jours, 4 jours. Non, vous pouvez faire un fact-checking qui va vous prendre un mois. Vous pouvez faire un fact-checking qui va vous prendre 3 jours. Vous pouvez faire un fact-checking qui va vous prendre une semaine. Donc, en fonction de la complexité du sujet, nous mettons le temps qu'il faut pour déconstruire cette information. Et les défis les plus importants, c'est d'abord l'accès aux sources. Vous avez aujourd'hui une désinformation qui concerne l'État de Côte d'Ivoire. Souvent, on va vous demander de déposer un courrier, passer par telle entité. Si vous n'avez pas le recours, il faut contacter la CAIDP. Au moment où nous sommes en train de suivre cette démarche administrative, l'information est en train de détruire la population. Donc, pour moi, c'est l'accès aux sources et la proactivité des sources. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire peut pas ramener un calendrier grec ou tout simplement demander à un journaliste, va faire un long courrier, revient avec ça. Quand on voit que la désinformation est en train de circuler sur les réseaux sociaux, Après le défi de l'accès aux sources, c'est le défi des moyens. Il faut du temps. Le fact-checking, ça prend du temps. C'est ce que j'explique aux patrons de presse, c'est ce que j'explique tous les jours à nos rédacteurs en chef. Donc, il est préférable de dédier quelqu'un au sein d'une rédaction à cette pratique-là, de telle sorte qu'on puisse être véritablement en alerte. Le fact-checker au sein d'une rédaction, son importance, c'est qu'il ne travaille pas seulement à produire des émissions de fact-checking, il travaille également à conduire ses collègues vers une bonne information. Imaginez-vous l'importance d'un fact-checker dans une rédaction où on reçoit une information à chaud. On est à 5 minutes du journal. On doit aller au journal, on doit vérifier cette information. Mais si on a un fact-checker au sein de la rédaction qui est déjà réseauté, qui a déjà la culture de cette vérification de l'information à l'heure des nouveaux médias, je pense que c'est un plus pour cette rédaction-là. Donc, c'est aussi le défi de la compréhension du fact-checking par ceux qui sont nos responsables, les rédacteurs en chef, les directeurs de publication. Il faut qu'on les amène à comprendre le fact-checking. C'est un défi. Il y a également les défis de moyens. Aujourd'hui, beaucoup de rédactions n'ont pas assez de moyens à consacrer au fact-checking. D'abord, pour y aller, il faut des ordinateurs. Pour ceux qui font le fact-checking, il faut une connexion Internet qui soit de qualité. Il faut un accès à des outils qui sont souvent payants pour que le citoyen puisse avoir accès à cette bonne information-là. Donc, c'est beaucoup de défis à la fois humains, matériels, qui empêchent aujourd'hui la vérification des faits de pouvoir se développer. Dieu merci, on a aujourd'hui des entités à travers le monde, par exemple comme Meta, comme Google, qui acceptent de sacrifier une partie de leurs gains pour que ces plateformes-là puissent être de plus en plus saines. Mais nous avons besoin de beaucoup d'argent, de pouvoir recruter beaucoup de personnes, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, parce qu'aujourd'hui, je me dis le minimum dans une rédaction, c'est d'avoir 2 à 3 fact-checkers, des personnes qui sont formées pour comprendre ce travail-là et le faire au quotidien.
Le fact-checking a-t-il des limites et comment les organisations de fact-checking travaillent-elles pour les surmonter?
Les limites les plus importantes aujourd'hui, je pense que c'est l'esprit même des lois qui encadre le métier et l'exercice de notre fonction. Vous savez qu'en tant que journaliste professionnel formé au respect d'un code d'éthique et de déontologie, nous ne devons pas utiliser certaines méthodes illégales pour pouvoir obtenir l'information. Ce qui fait que nous sommes limités. Souvent, vous avez accès à une source, vous avez accès à une information, mais du simple fait que la méthode que vous avez utilisée, par exemple, ne vous permet pas de pouvoir utiliser cette information, vous êtes obligé de la laisser tomber. Donc, il y a beaucoup de limites, surtout dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui se développe de plus en plus aujourd'hui à travers le monde. On vous dit, par exemple, que l'utilisation d'une source d'intelligence artificielle doit être soumise à une notion d'éthique. Donc, l'éthique qui encadre le travail de journaliste. Je prends un exemple simple. Si le code d'éthique et de déontologie du journalisme ivoirien nous impose de ne pas faire du plagiat, vous ne pouvez donc pas utiliser un outil d'intelligence artificielle qui ne fera que du plagiat pour vous donner l'information. Voici pourquoi je dis que ceux qui nous ont dévancés dans la profession sont des hommes et des femmes qui ont été sages de nous doter d'un code d'éthique et de déontologie. Et ce code d'éthique et de déontologie, si vous l'analysez très bien et que vous prenez l'intelligence artificielle, vous allez voir que notre métier lui-même déjà garantit et balise l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau du journalisme. Un journaliste, par exemple, pour des questions d'éthique, ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle pour produire une image d'illustration. Notre métier ne nous le permet pas, parce que le plagiat est interdit.
Est-ce que le fact-checking et l'intelligence artificielle font bon ménage?
Alors, cette question revient tout le temps. Le fact-checking fait bon ménage avec l'intelligence artificielle. En ce sens que ce sont des codes d'intelligence artificielle. C'est grâce à l'intelligence artificielle qu'aujourd'hui nous avons pu développer des outils comme InVid pour la vidéo, des outils comme Google Lens qui nous permettent aujourd'hui de faire des recherches par image inversée. Donc l'intelligence artificielle, c'est la cause de la lutte contre la désinformation. Malheureusement, en face, il y a cette intelligence artificielle qui sert également la cause de la désinformation. Donc, la manipulation d'images, la manipulation de vidéos, la production de textes qui sont littéralement faux. Donc, c'est autant de choses que l'intelligence artificielle permet de faire. Mais nous devons, en tant que journaliste professionnel, en tant que, codeur professionnel, on ne va pas baisser les bras. On ne va pas se dire que, comme l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la cause de la désinformation, nous n'allons pas en tirer le bon profit. Nous avons décidé, et c'est ce que la communauté du fact-checking à l'échelle mondiale fait, nous allons travailler à utiliser l'intelligence artificielle justement pour servir la cause du fact-checking et lutter contre la désinformation.
Et comment les biais personnels ou institutionnels peuvent-ils influencer le processus de fact-checking?
Aujourd'hui, nous sommes dans un milieu où je pense que c'est tous les acteurs réunis qui peuvent arriver réellement à insuffler un souffle nouveau à la vérification d'informations. Que ce soit l'homme politique, que ce soit l'homme de droit, que ce soit celui qui est en charge de la sécurité, que ce soit le journaliste qui est lui-même le premier professionnel de l'information dans un état de droit. Nous avons tous un travail à faire ensemble. Au début du fact-checking, quand il a commencé à se développer aux États-Unis, c'était de permettre aux hommes politiques de rendre compte des promesses qu'ils ont justement faites au peuple. Donc, on partait sur la base des déclarations publiques des hommes politiques. Aujourd'hui, nous sommes à une étape d'investigation numérique. C'est pour vous montrer que quelque part, nous sommes partis, nous journalistes, conscients d'un phénomène qui existe. c'est-à-dire que celui selon lequel les hommes publics disent des choses qui ne tiennent toujours pas face au peuple. Donc nous avons commencé d'abord par vérifier les faits qui sont liés à des hommes politiques. En l'état actuel des choses, les institutions, les hommes politiques et tous ceux qui sont acteurs d'une manière ou d'une autre de l'information doivent se mettre ensemble. Premièrement, favoriser les lois qui permettent aux vérificateurs d'information de pouvoir exercer leur travail. Faciliter l'accès aux sources. Nous avons une désinformation qui touche une entité de l'État de Côte d'Ivoire, qui touche un homme politique ou tout simplement est en train de faire des ravages au sein de la population. Il faut que les institutions qui sont en charge de communiquer la bonne information ne nous mettent pas dans des procédures administratives kilométriques. Nous parlent, échangent avec nous. Si un journaliste aujourd'hui, spécialiste en fact-checking sur les questions environnementales, voit de la désinformation, par exemple, sur le niveau de pollution de la lagune Ébrier, je pense que le CIAPOL doit être la première entité à se mettre à la disposition de ce journaliste-là pour lui donner des informations sur les questions environnementales et de pollution. Pour moi, c'est important. Il faut qu'on échange l'information. Il faut qu'on facilite l'accès des informations aux journalistes de telle sorte qu'il puisse réellement jouer son rôle et bien le jouer au sein de la société. Aux hommes politiques également, j'estime que la politique peut se passer par moments des fausses promesses. Quand bien même, c'est souvent difficile dans l'univers de la politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, si un fact-checker rappelle à un homme une promesse qu'il a tenue, ce n'est pas pour emmerder l'homme politique, mettre à mal l'État de Côte d'Ivoire ou toute autre entité. C'est justement pour travailler à ce que la promesse qui a été faite au peuple puisse être tenue. Donc, on nous a annoncé, par exemple, des grandes réalisations qui n'ont pas encore été faites. Si un fact-checker décide, par exemple, de faire un papier de fact-checking sur les promesses de l'État de Côte d'Ivoire au peuple et qui met en nu, donc, toutes ces promesses qui ont été faites par le gouvernement, par des hommes politiques et qui n'ont pas été tenues, il ne s'agit pas de montrer que le gouvernement ne travaille pas. Il s'agit tout simplement de rétablir les faits. Et souvent, c'est ce qui cause problème et ce qui fait que certaines entités, que ce soit l'armée, que ce soit les politiciens, que ce soit des institutions, sont à couteau tiré avec les fact-checkers. On nous traite souvent de personnes qui veulent faire la morale aux hommes politiques. Non, il n'y a pas de fact-checking à charge ou à décharge. Notre démarche est basée sur la vérification scientifique de l'information et c'est ce que le peuple doit retenir.
Sui Kaoufi, je vous dis merci.
Merci beaucoup à la Radio de la Paix.
À la technique, il y avait Antoine Kouassi, Marthe Kakou à ce micro. Merci de votre attention. À très bientôt.
C'était l'entrevue
Radio de la Paix.